France Inter.
La Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Tous recyclables, sauf les boîtes à camembert. Accord conclu hier soir entre État et Commission européenne pour verdir les emballages et réduire l'usage du plastique dès 2030. Détail dans un instant. Ils déshabillent vos bagages et font gagner du temps. Ce sont les nouveaux scanners de l'aéroport de Roissy. Explication à suivre. À la une, il y a aussi le Super Tuesday aux États-Unis. 15 États votent pour les primaire, apéritif de la présidentielle, nous serons au Texas.
Et à 8h20, justement, le grand entretien de la matinale. Bonjour Léa Salamé.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Nos invités.
Et oui, c'est la journée la plus attendue de la campagne présidentielle américaine tous les 4 ans, mais ce Super Tuesday aura-t-il autant de suspense, de rebondissements et d'incertitudes que d'habitude? Ou viendra-t-il confirmer ce qu'on pressent? Le match retour Trump-Biden aura bien lieu. There is no alternative. Il n'y a pas d'alternative. On en débat avec Roger Cohen, le chef du bureau parisien du New York Times, Célia Belin, spécialiste des États-Unis, et Nicolas Kanker, porte-parole du GOP des Républicains de Trump, quoi.
Oui, et vos questions 01 45 24 7000.
Et d'ici là, nous serons à Pékin qui vient d'annoncer un budget militaire en hausse de 7% et redire qu'il n'était pas question d'indépendance à Taïwan. À Saint-Étienne, où des pompiers se battent pour garder leur barbe. Et à Saint-Sébastien, Pays basque espagnol qui attend le PSG ce soir en 8e de finale, retour de Ligue des Champions.
France Inter.
C'est la poubelle qui déborde quand on trie ses déchets. La poubelle jaune consacrée aux emballages et au plastique. 189 kilos par habitant et par an en Europe. Le pacte vert ne pouvait pas faire l'impasse et cette fois les objectifs sont actés. En 2030, fini les contenants à usage unique dans les cafés et restaurants. Fini les dosettes de ketchup et de moutarde. Fini les flacons miniatures de shampoing dans les hôtels. Les déchets d'emballage devront avoir baissé de 15% en 2040 et surtout Willy Moreau, ils devront tous être recyclables. Voilà qui nous parle alors des courses.
À la sortie d'un supermarché parisien, devant une vitrine qui déborde de chocolat de Pâques emballé, Nadège ouvre son sac.
Du jambon, il y a la pâte feuilletée que je ne sais pas faire moi-même.
Plastique aussi.
Plastique aussi.
Sans compter les multi-emballages comme dans les paquets de gâteaux individuels.
Moi je suis d'une génération où j'achetais beaucoup en vrac. Aujourd'hui, je suis surprise de voir autant d'emballages proposés, même les avocats, même les fruits, quoi.
L'accord prévoit justement la fin des emballages plastiques, des fruits et légumes non transformés, l'interdiction des PFAS, les polluants éternels dans les emballages alimentaires, et un autre point très important pour Axel Daru, responsable des affaires publiques au sein de la Fondation Mine de Roux.
Le texte va aussi faciliter un petit peu plus le recyclage.
Tous les emballages devront être recyclables dans 6 ans, sauf exception, boîte à camembert ou bourriche d'huître. Et il faudra aussi recycler bouteilles d'eau en plastique et canettes sous peine de mettre en place des consignes.
Ça veut dire qu'un consommateur va pouvoir stocker bouteilles et canettes pour pouvoir la remettre dans une machine de déconsignation, majoritairement du coup en magasin, juste auprès d'un distributeur.
Avec à la clé bon d'achat, voire de l'argent, la France, plutôt en avance, interdit déjà les sacs plastiques légers. Ce sera bientôt le cas partout dans l'Union européenne.
Et disposition inédite, les emballages plastiques importés devront respecter les normes de l'Europe. On appelle ça une clause miroir. Le compromis doit être encore validé par les 27 et le Parlement européen. Du plastique, on en trouve aussi dans nos bagages. C'est même obligatoire pour transporter des liquides en cabine, 100 ml maximum, placés dans un sac plastique transparent et refermable, dit la réglementation. Voilà qui pourrait changer grâce au nouveau scanner de l'aéroport de Roissy, déployé dans la perspective des Jeux Olympiques. Ils sont plus efficaces et plus rapides, Philippe Lefebvre.
Alors, vu l'extérieur, ces nouveaux scanners ressemblent à s'y méprendre à ceux qui, depuis des dizaines d'années, permettent de contrôler tout ce qu'il y a à l'intérieur de nos sacs et autres valises cabines. Sauf que ces nouvelles machines offriront aux contrôleurs une vision en 3 dimensions de ce qu'il y a à l'intérieur de nos bagages. Et pour les passagers, cela va tout changer, explique Régis Lacote, le directeur de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.
Ces nouveaux appareils permettent aux passagers de déposer leur bagage cabine dans les bannettes sans sortir leurs ordinateurs et les liquides qu'ils pourraient contenir. En fait, ces équipements sont équipés d'algorithmes et de détecteurs de molécules. Et donc, c'est comme ça en fait qu'ils peuvent à la fois faire les contrôles sur les liquides, mais aussi sur tous les objets qui sont à l'intérieur de vos valises, et notamment les ordinateurs ou tous les appareils électroniques.
Terminer donc notamment les quantités limitées de produits cosmétiques que l'on devait emballer dans des sacs plastiques ou les bouteilles d'eau que l'on devait jeter avant les contrôles, enfin pas totalement terminé car tous les points de contrôle ne seront pas équipés totalement avec ces nouveaux appareils d'ici aux Jeux Olympiques, car rien que pour Roissy, il faut plus d'une centaine de machines et la demande est énorme dans les autres aéroports européens qui veulent tous ces nouveaux scanners qui permettent de réduire de 30% le temps de passage dans les zones de contrôle.
Philippe Lefebvre, quand une vingtaine de mètres d'un pont en construction s'effondre, c'était hier en fin d'après-midi dans la banlieue de Toulouse, à Labège, sur le chantier d'une ligne de métro. L'accident a fait un mort et trois blessés, dont deux dans un état très grave. Ils ont dû sauter de l'ouvrage à 10 mètres de haut. A priori, c'est la rupture d'un vérin entre deux piles du chantier qui a causé la tragédie, selon le procureur de la République.
Il est 8h07, c'est le temps fort des primaires avant la présidentielle aux États-Unis.
Et oui, le Super Tuesday, ce mardi où 15 États votent pour désigner leurs candidats. Chez les Républicains comme chez les Démocrates, ils valideront sans doute le duel Trump-Biden. Parmi les sujets clivants entre les deux camps, il y a les armes à feu. La ville d'Uvalde en sait quelque chose. Au Texas, là-bas, un jeune homme a tué 19 enfants et deux enseignants il y a 2 ans dans une école. Pourtant, Uvalde, peuplé de latinos à 80%, devrait donner la majorité à Donald Trump, car la communauté penche très nettement du côté républicain. Reportage signé Sarah Mansoura.
Sur la petite place du centre-ville ou devant l'école élémentaire Robe, les portraits des 21 victimes n'ont pas bougé. Uvalde et ses 15 000 habitants vivent encore avec ce traumatisme. Summer pousse sa fille d'un an sur une des balançoires du parc.
Ça fait 2 ans, mais le temps n'y fait rien. Le temps, l'argent, rien ne les ramènera.
À 19 ans, elle s'apprête à voter pour la première fois et ce sera pour Donald Trump.
Je trouve qu'il a fait beaucoup pour nous. Depuis que Biden est président, le monde va mal.
La tuerie n'a pas changé son avis sur la régulation des armes à feu. Même vision pour John, arme de poing solidement accrochée à sa ceinture.
Nous enlever les armes ? Non, je ne voterai pas pour. J'ai mon arme depuis 20 ans. J'espère ne jamais avoir à m'en servir, mais je crois au fait de défendre ma famille, ma communauté. Avec mon arme.
Mais c'est surtout la campagne très anti-migrant de Trump qui fonctionne pour Darty.
Ils envahissent la frontière. Non, c'est mauvais.
Car les Texans placent l'immigration en tête de leurs préoccupations dans les sondages. Marie n'a plus envie de voter démocrate.
Oui, j'ai vu une évolution des démocrates qui maintenant votent républicain. Je vote juste pour la meilleure personne qui se présente.
Le comté d'Uvalde reste rouge vif sur la carte du Texas. Sur les 3 dernières élections présidentielles, il vote même de plus en plus républicain. Il y a 4 ans, Donald Trump y totalisait près de 60% des votes.
Sarah Mansoura, envoyée spéciale de France Inter au Texas avec Alexandra Abergel. Des armes pour l'Ukraine, quitte à les acheter à l'extérieur de l'Europe, c'est la proposition de la République tchèque, que devrait soutenir Emmanuel Macron aujourd'hui en visite à Prague et qui est revenu sur ses déclarations sur un possible envoi de troupes occidentales en Ukraine. Nous lançons le débat sans entrer dans une logique d'escalade, dit le président dans une interview à la presse tchèque. En Chine, le grand rendez-vous du jour, c'est l'ouverture de la session annuelle du Parlement. Hymne national au Palais du Peuple et discours du Premier ministre devant 3000 délégués du parti unique. Ce matin, il a fixé l'objectif de 5% de croissance pour 2004, comme l'an dernier, l'heure est au ralentissement économique. En revanche, Pékin ne lésine pas sur son budget militaire, toujours plus haut sur fond de tension avec Taïwan. Correspondance signée Sébastien Berriot au Palais du Peuple.
Quelques semaines à peine après l'élection d'un nouveau président à Taïwan, que Pékin qualifie d'indépendantiste radical, les propos du Premier ministre Li Qiang ne sont pas passés inaperçus.
L'armée devra renforcer ses entraînements et sa préparation au combat et défendre fermement notre souveraineté, notre sécurité et nos intérêts. Il est impératif d'accélérer la mise en œuvre de grands projets de développement de la défense nationale. Les gouvernements à tous les échelons doivent les soutenir énergiquement.
Le soutien financier est conséquent. Une nouvelle fois, le budget de la défense progresse de plus de 7%. La Chine va y consacrer en 2024 231 milliards de dollars. C'est le premier budget de l'État, devant même une autre priorité du régime, la sécurité publique. Des investissements massifs qui permettent à la Chine de moderniser en permanence son appareil militaire sur fond de tensions avec Taïwan, mais aussi d'une présence chinoise de plus en plus visible en mer de Chine méridionale. Même si des questions se posent sur l'efficacité de l'armée populaire de libération, secouée par des scandales de corruption et une série de limogeages ces derniers mois, la Chine a changé 2 fois de ministre de la défense en 2023. L'un d'entre eux a subitement disparu l'été dernier, sans explication. Au Palais du Peuple à Pékin, Sébastien Berriot, France Inter.
Et au même moment ce matin, un incident avait précisément lieu en mer de Chine. Des gardes-côtes chinois sont entrés en collision avec un navire des gardes-côtes philippins qu'ils accusent d'intrusion. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale sans accord international.
Il est 8h11, ce sera le dernier acte de l'inscription de l'IVG dans la Constitution.
Une cérémonie au ministère de la Justice pour la première fois ouverte au public ce vendredi 8 mars, journée des droits des femmes, pour l'apposition du sceau sur la loi votée par le Congrès hier. Uniquement sorti ce sceau pour les grandes occasions. Modifier la Constitution, il en est aussi question dans d'autres dossiers en ce moment qui concernent la France des îles, beaucoup plus délicat politiquement. Simon Le Baron, on parle de processus nettement moins consensuel.
Emmanuel Macron a peu de chances de revoir tous les parlementaires debout dans l'hémicycle du château de Versailles. Sur la Nouvelle-Calédonie, le sujet est aussi sensible que crucial pour l'avenir de l'archipel. Il s'agit d'élargir le corps électoral, gelé depuis 1998, pour assurer une meilleure représentation des Kanaks. Le gouvernement espère se faciliter la tâche en incitant les forces politiques locales à se mettre d'accord, ce qui est loin d'être acquis. Sur la Corse, les discussions progressent sur une plus grande autonomie. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, estime même que l'on s'approche d'un consensus, mais le chemin reste incertain jusqu'à un éventuel feu vert de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Congrès et de l'Assemblée de Corse. Enfin sur Mayotte, où l'exécutif veut supprimer le droit du sol pour lutter contre l'immigration illégale, on en est qu'au stade de la promesse et elle donne déjà lieu à une surenchère, droite et extrême droite réclamant cette mesure pour tout le territoire. La Constitution n'avait pas été modifiée depuis 16 ans, rien ne dit qu'elle le soit à nouveau de sitôt.
Simon Le Baron, Roman Polanski devant la justice française. C'est une première. Le réalisateur de 90 ans sera jugé cet après-midi pour diffamation après une plainte de l'actrice Charlotte Lewis qui l'accuse d'agression sexuelle quand elle avait 16 ans. Ce que Polanski a qualifié publiquement d'odieux mensonge. Il ne sera pas présent à l'audience. Peut-on être pompier et porter la barbe à Saint-Étienne pour conserver leur poil? 7 sapeurs-pompiers ont saisi la justice et se défendront aujourd'hui devant le tribunal administratif de Lyon au nom de leur liberté de disposer de leur apparence physique, car Sébastien Sabiron, ils ont été suspendus et privés de salaire.
En décembre dernier, malgré les remontrances de leur hiérarchie, 7 pompiers décident de se laisser pousser la barbe. D'abord privés de missions opérationnelles et cantonnés à des tâches annexes, ils sont désormais placés en état de service non fait. Mourad Bachecourt, représentant CGT des sapeurs-pompiers de la Loire.
Ils arrivent à la caserne, ils sont pas rasés. Effectivement, le service leur dit non, tu peux pas travailler aujourd'hui, on les place en service non fait. C'est-à-dire comme s'ils étaient des grévistes, pas rémunérés, ils ont une perte de salaire brute.
Le service départemental d'incendie et de secours de la Loire invoque la doctrine opérationnelle dictée par le ministère de l'Intérieur. Elle précise que pour garantir leur étanchéité, les masques de protection doivent être portés sur une peau rasée. Les pompiers, eux, s'appuient sur un autre arrêté, stipulant simplement que les barbes et moustaches doivent être bien taillées. Mourad Bachecourt.
Bassin méditerranéen, ils portent la barbe et ça ne pose aucun problème. Des départements dans la région Rhône-Alpes, juste à côté de chez nous, portent également la barbe et ça ne pose aucun problème à ces directeurs. Aujourd'hui, les collègues portent la barbe parce qu'il y a une contradiction dans les textes réglementaires. Est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Eux, ils demandent un éclairage juridique.
Leur avocate réclame la levée des sanctions administratives. Par le passé, la justice a déjà donné raison à des pompiers barbus de Seine-et-Marne et de Moselle, peut-être avec le concours de Sainte-Barbe, la patronne des sapeurs-pompiers.
Sébastien Sabiron, dans 15 jours, il y aura les gagnants. Mais avant cela, le guide Michelin a donné la liste des perdants. Hier soir, 28 restaurants rétrogradés, dont un 3 étoiles qui n'en a plus que 2. C'est la Bouite des chefs René et Maxime Meilleur à Saint-Martin-de-Belleville, en Savoie. Un coup dur, mais toute la famille Meilleur est déjà au travail pour retrouver le frisson de la 3e étoile. Réaction de l'équipe plutôt bonne perdante. Rendez-vous à San Sébastien, en Espagne. Les joueurs du PSG y sont attendus pour le match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions contre le Real Sociedad ce soir. À l'aller, les Parisiens l'ont emporté 2-0. Un but signé Kylian Mbappé, tout allait bien avant que son départ du PSG cet été ne soit rendu public. Depuis, la tension est palpable entre l'attaquant et son entraîneur Luis Enrique. Mbappé joue moins. Il a même été sorti à la mi-temps à Monaco vendredi dernier. On se demande donc comment va se passer le match de ce soir. La saga Mbappé, vue du Pays Basque espagnol, c'est Xavier Monferrand.
Son restaurant est juste en face d'Anoeta, le stade de la Real Sociedad. Le patron de Chanti est un fidèle socio des Churi Urdin, les bleus et blancs. Et il se dit que si Mbappé n'est pas dans son assiette, ce n'est pas plus mal.
Bien sûr, ça peut avoir une influence. C'est un grand joueur, mais même les plus grands peuvent se moquer.
Allez, la Real. Que Kylian Mbappé soit sur le terrain, qu'il soit remplacé ou qu'il fasse banquette, à vrai dire, pour Imanol Alguacil, l'entraîneur de la Real Sociedad, le problème sera le même.
S'il ne joue pas, c'est un autre qui sera sur le terrain. Avec beaucoup de talent, bien sûr que Mbappé est unique, mais voilà, quelqu'un d'aussi bon peut prendre sa place.
Luis Enrique a eu une discussion avec Kylian Mbappé après l'avoir sorti à Monaco, mais peut-il faire de même en Ligue des Champions ? L'entraîneur espagnol du PSG s'en amuse et fait mine de ne pas comprendre la question. Son refus de répondre en dit long, mais Luis Enrique est fidèle à lui-même, ses actes en disent plus que ses mots. Il faut donc en déduire qu'avec Mbappé ou un autre, tout est possible, même pour le match le plus important de la saison.
Voilà, Real Sociedad PSG, c'est à 21h ce soir et il est question de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Merci Florence Paracuelos. 9h20, je vous le rappelle, Léa Salamé reçoit l'écrivain Mathieu Bellesi, prix du Livre Inter 2023. Ses romans « Moi le glorieux » et « Le temps des crocodiles » sont réédités cette semaine aux éditions du Tripode. La météo, Céline Dacosta.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Céline, on aura un peu moins de soleil aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, à part près de la Méditerranée où il sera encore bien présent, sur la Bretagne aussi où il va revenir cet après-midi. Mais c'est vrai qu'hier, on a profité du soleil sur une large bande centrale du pays et pour cause, on a eu à Paris par exemple plus de 7 heures d'ensoleillement. Ça n'était pas arrivé, Nicolas, depuis le 29 janvier. Il faut dire qu'on a eu un mois de février particulièrement gris, le plus gris depuis 1991. Et la grisaille, elle est de retour aujourd'hui sur quasiment tout le pays avec un ciel partagé entre nuages, rares éclaircies, averses plus ou moins fortes et bonnes rafales de vent. Les averses les plus importantes, on les attend sur la Normandie, le quart sud-ouest. Pour les autres, on ira de la Bruine à l'averse orageuse jusqu'aux chutes de grêle de Grésil. On aura encore un petit peu de neige sur tous les reliefs. Le risque d'avalanche reste d'ailleurs très élevé sur les Alpes et les Pyrénées. Puis on n'oublie pas la Charente-Maritime, toujours en vigilance orange pour la crue de la Charente.
Et pour les températures, moins de soleil, donc ça baisse un peu.
Oui, avec cet après-midi une moyenne de 6 à 13 degrés, jusqu'à 16 encore près de la Méditerranée. Ce matin c'est frais, mais proche des normales de saison, 2 à 7 degrés, jusqu'à 12 pour la plus douce à Bastia.
Céline Dacosta, merci. Il est 8h18.